les miroirs. Nous y sommes. Un lundi sur deux, sur Fréquence Paris Pluriel. Les miroirs, une émission de José Nzolani sur la société à partir des textes des chansons. Les miroirs.
Bonjour, bonsoir, chers auditeurs de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nous allons faire votre émission Les Miroirs, mais dans des conditions un peu spéciales. Comme vous savez, l'actualité, c'est la conférence sur le climat à Paris, la COP21. Mais pendant ce temps, la COP21, nous, on voulait aussi donner la parole, pas seulement aux spécialistes, mais au peuple. Au peuple, aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui est préparée et produite en collaboration avec l'Association des travailleurs de Congo-Kinshasa. Et ses membres sont là. Pourquoi l'Association des travailleurs de Congo-Kinshasa? Tout simplement parce que quand on parle du climat, quand on parle des problématiques du climat, tout ce qu'on peut parler au niveau mondial, on trouve ses équivalents en Afrique, particulièrement dans les bassins du Congo, même les fontes de glace, alors qu'on est en plein territoire de l'équateur et des tropiques. La TCK, c'est quoi? La TCK, les présidents Andy Yakin Mavambu, vous pouvez nous parler brièvement pour ceux qui ne connaissent pas la TCK et comment on peut vous contacter?
Bien, merci, cher ami. En fait, l'Association des travailleurs du Congo-Kinshasa en France est née en 1988. Donc, c'est une association de la loi 1901, régie par la loi française à la préfecture de Créteil. Alors, l'association a pour but, en fait, de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs congolais. Nous poursuivons aussi le but de susciter une certaine solidarité entre les travailleurs congolais et africains et français. Et nous aidons aussi les jeunes à s'insérer dans la société française. Voilà, en gros, l'association. Nous sommes basés à Créteil. Nous avons nos réunions à Ivry. Et nous avons, pour les gens qui veulent nous joindre, un email. Donc, c'est atckfrance@yahoo.fr.
Merci, Andy oui. Yakin Mavambu.
Oui.
Alors, dans l'association ATCK, ce qu'on ne vous a pas dit, en tout cas, on a tous les talents et presque tous les travailleurs, aussi bien ouvriers, intellectuels, professeurs, ils sont là. Aujourd'hui, c'est qu'une partie des membres de l'association qui sont présents avec nous. Donc, nous avons au studio Massamba Kalemba Luzolo, alias Papillon Cosmique, qui est chimiste de formation. Il a fait ses études à Orsay. Nous avons aussi un autre chimiste, en la personne de Robert Makani, qui est... Bonjour, papa Robert.
Bonjour, cher ami José.
Oui, alors, lui aussi chimiste, parce que quand on parle du climat, la chimie et tout ça, et la science, c'est important. Et à côté, nous avons papa Makidi Guillaume, qui est sociologue, parce que la science ne peut pas marcher sans la société, sans la sociologie. Et Andy Mavambu, le président, qui est agronome de formation, il a fait ses études d'agronomie à Yangambi. Yangambi, c'est dans la province orientale de la République démocratique du Congo, qui est vraiment sous la ligne de l'équateur. Et Yangambi, c'est pour cela qu'on a implanté aussi à Yangambi l'Institut national de recherche agronomique et l'école. Et en France, il a fait des études de nutrition. Il est docteur en nutrition. Et moi-même, José Nzolani, je suis aussi membre de l'association et j'ai fait des études de droit et sciences politiques avec option relations internationales. Donc, on va faire l'émission. Avant d'attaquer le corps de notre émission, nous allons écouter une chanson des circonstances, La Terre, chantée par notre ami Papillon Cosmique, qui est avec nous. Bonjour, papa Massamba.
Bonjour.
Alors, vous pouvez nous parler brièvement dans quelles circonstances vous avez fait cette chanson, La Terre?
Cette chanson, je pense que j'ai été insidieusement... Ah, allô, ouais. Non, ça va bon,
oui,
ça,
oui, oui, c'est bon, c'est bon.
Bon, j'ai été insidieusement influencé par les Amis de la Terre. Et puis moi-même, j'ai... Vous ne m'entendez pas là ?
Oui, oui, je vous entends, allez-y.
Alors, j'ai été influencé par la propagande des Amis de la Terre dans les années 92. Ça m'a tellement influencé, comme moi-même, je m'intéresse à la chanson... L'inspiration m'est venue, j'ai composé cette chanson qu'on appelle La Terre. J'ai même composé deux chansons, La Terre et Notre Mère, La Terre.
Qu'on va écouter à la fin de l'émission.
Ouais.
Alors, sans plus tarder, et là, pour une fois, je n'ai pas besoin de traduire les chansons. Mmh. C'est en français, La Terre, Massamba, Papillon Cosmique.
Toujours à l'écoute de FPP 106.3 FM.
Vous êtes toujours à l'écoute de FPP 106.3 FM, l'émission Les Miroirs spéciale COP 21 et Les Miroirs d'aujourd'hui est préparé, produit en collaboration avec l'Association des travail du Congo-Kinshasa, la TCK, qui, avec qui nous présentons cette émission. Alors, c'est quoi les thèmes d'aujourd'hui, comme on a préparé ensemble, Guillaume?
Bien, la conférence qui s'est réunie à Paris sur le climat est représentée par 195 pays, par des délégations de tous les pays qui sont venus sur place pour pouvoir voir les moyens par lesquels ils peuvent arriver à limiter les responsabilités sur les pays, l'ensemble des pays, je dirais, pour pouvoir limiter les émissions d'effets de gaz, de serre, qui augmentent la température de la planète. Alors, notre maison commune, la Terre, doit nous permettre de continuer à vivre. Et pour cela, les spécialistes veulent voir, à travers les discussions et les moyens qui peuvent être mis en place, pour pouvoir essayer de limiter justement ces réchauffements climatiques qui dérègle en fait notre climat et qui a des conséquences énormes sur la vie sur Terre. Alors, pour nous, en tant que travailleurs de l'association des travailleurs de Congo-Kinshasa en France, nous avons pensé que nous pouvons parler du problème qui concerne le bassin du Congo, parce que les responsabilités au sujet des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas du tout égales pour l'ensemble des pays. Nous savons très bien que les gros responsables de ces émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis et l'Europe, ils sont les plus grands responsables pour pouvoir émettre ces émissions suite à l'industrialisation, alors que l'Afrique est vraiment peu concernée dans les émissions de gaz de CO2 pour l'effet de serre. Alors, nous avons voulu aussi montrer que, à travers nos émissions et de nos interventions, nous pouvons donc éclaircir les gens sur les conséquences chez nous et le pourquoi du fait que le Congo, dans son ensemble, je dirais, ne peut pas être comme ça signé, contraint dans des pactes qui seront normalement conclus, parce que ces pactes ont un effet juridique contraignant pour l'ensemble des pays. Mais étant donné que les responsabilités sur les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas du tout à la même hauteur pour l'ensemble des pays, je viens de dire que la Chine, les États-Unis et l'Europe sont les premiers concernés et les plus responsables de ce réchauffement climatique. Donc, il va falloir que dans les textes et dans les pactes qui seront conclus, qui auront un effet contraignant juridique, on puisse aussi parler de financement et notamment de responsabilité au niveau du bassin du Congo. Parce qu'on sait très bien que après l'Amazonie, le bassin du Congo est le deuxième poumon du monde.
Tout à fait.
Donc, je disais que le bassin du Congo est le deuxième poumon du monde. Alors, si nous pensons que nous avons ces problèmes de l'effet de serre dégagé par l'industrialisation, nous avons chez nous plutôt un problème purement local, domestique, dans le sens où nous vivons plutôt la déforestation. La déforestation qui est due au problème de manque d'énergie. De ce fait, nous allons pouvoir aborder ces thèmes en essayant de voir les responsabilités et aussi les conséquences que cela entraîne sur le bassin du Congo.
Tout à fait. On parlait du bassin du Congo. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le bassin du Congo? Parce que quand on parle du bassin du Congo, ce n'est pas la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, mais c'est quoi le bassin du Congo?
Mon cher José, pour ceux qui ne le savent pas, le bassin du Congo représente le deuxième massif forestier tropical après l'Amazonie. Et ce bassin se distingue par sa biodiversité exceptionnelle et un niveau d'endémisme très élevé. C'est-à-dire qu'il y a certaines plantes qu'on ne trouve que dans ce secteur-là. Alors, mon ami Guillaume Akidi a parlé de la déforestation. Donc, le but pour nous, c'est la conservation des forêts du bassin et fondamentale pour les quelques 60 millions de personnes qui y habitent et dépendent de ces ressources. Alors, ces bassins du Congo disposent de 8 sites naturels, reconnus pour leurs valeurs universelles exceptionnelles qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, ces sites sont situés dans 5 parties, donc 5 États. Il y a le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la République démocratique du Congo et le Gabon. Bon, à ces pays, on pourra éventuellement aussi annexer le Rwanda et le Burundi.
Même l'Angola, d'ailleurs.
Même l'Angola, oui.
Même l'Angola. Ouais. Mmh.
Et oui, parce qu'en plus de ça, dans le Congo, on parle de ces bassins, mais il y a aussi un certain nombre de richesses et des atouts de ces bassins du Congo qu'on peut trouver. Alors, Andy Yakin, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça?
Oui, moi, ce que j'ai voulu dire, pardon, c'est plutôt les ressources.
Les ressources, oui.
Les ressources du bassin du Congo. En fait, le bassin du Congo regorge une flore très, très importante. Alors, la flore du bassin du Congo possède aux alentours près de 10 000 espèces inventoriées qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a aussi comme ressource la faune ou comme mon ami Robert Macagne avait dit, la biodiversité. Il y a la faune qui est très, très importante. On y trouve beaucoup de gorilles, là. Il n'y a pas que des gorilles.
Oui, oui, des gorilles des montagnes qu'on ne trouve que dans cette partie du monde. C'est disparu. C'est pour ça que Diane Fossé, protégée, elle a donné de sa vie pour protéger ces gorilles des montagnes.
Exactement. Et au Congo, Kinshasa, République démocratique du Congo, il y a des bonobos,
oui,
qui sont vraiment des animaux, des primates, des grands primates qu'on ne trouve pas ailleurs, hein. Donc, même les chercheurs, quand ils vont là-bas, c'est pour aller chercher les bonobos dans le bassin du Congo. Il y a aussi comme ressource l'hydrologie. Hein. Il y a beaucoup de cours d'eau, beaucoup de fleuves, beaucoup de rivières, beaucoup de lacs, qui fait que ce bassin constitue une énorme ressource importante pour l'humanité et pour l'Afrique d'abord. Et enfin, il y a aussi le climat qui est là, le climat équatorial. Ce climat équatorial
Et vous connaissez très bien parce que vous avez fait des études dans le climat équatorial à Yangambi.
Exactement, où il y a une pluviométrie très très importante, si bien que la forêt est dense et riche. Et aujourd'hui, nous déplorons, on va peut-être en parler, l'exploitation de certaines sociétés multinationales, que ce soit au Gabon, que ce soit en République démocratique du Congo, que ce soit au Congo-Brazzaville, viennent exploiter les essences forestières du bassin d'une manière un peu plus ou moins exagérée. Cela pose des problèmes justement en ce qui concerne le reboisement, en ce qui concerne effectivement le climat, parce que cela traduit au changement climatique que nous déplorons aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, vous avez fini, non?
Oui, oui.
D'accord. Est-ce que, M. Massamba, les papillons cosmiques, est-ce que vous avez un commentaire à faire ou des compléments?
Compléments, c'est je parlerai du phénomène des déboisements. Le déboisement dû soit pour des raisons de survie, parce que les gens qui sont, par exemple, dans la République démocratique du Congo.
On en parlera tout à l'heure, oui, après la chanson, le déboisement. Mais oui, par rapport à ce qu'il vient de dire, hein, oui, est-ce qu'il y a un commentaire?
Non, je n'ai pas un commentaire assez précis dans ma tête pour l'instant. Pour ce
d'accord. Sujet. Oui, Guillaume.
Oui, je voulais dire que par rapport à ce que vient de dire notre camarade Andy Mavambou, je voudrais insister sur le fait que le monde doit prendre conscience de l'importance de la préservation du bassin du Congo dans l'ensemble de ses ressources. Et puis, en tant que poumon, deuxième poumon après l'Amazonie, pour notre planète, il faut donc que l'on puisse voir exactement dans les différents moyens qu'on va essayer de définir comment faire pour que cette préservation de ce bassin du Congo soit le plus efficace possible. Donc, fortement, on parlera du problème de la limitation du déboisement. et pour limiter ces déboisements, et on est obligé d'évoquer l'aspect énergétique. Parce que le gros problème qui se pose, c'est le problème de pouvoir fournir l'énergie nécessaire pour les populations, pour les travailleurs, pour les pauvres mamans qui doivent pouvoir faire bouillir la marmite. Quel type d'énergie doivent-ils employer ? Donc, ces problèmes, nous allons pouvoir l'aborder parce qu'il est très important pour les paysans. Et n'oubliez pas que 63% ou 65% de la population congolaise est paysanne et nous avons 35% des citadins. Il se pose donc des graves problèmes d'urbanisation assez, disons, sauvages et de non-contrôle. Et ensuite, il y a les paysans qui, lui, doivent faire bouillir sa marmite. Et donc, il faut qu'on trouve comment remplacer les énergies qui sont nécessaires pour pouvoir vivre.
On va entrer là-dessus dans les détails tout à l'heure, mais ce que je voulais rajouter, dans les atouts, dans les bassins du Congo, on a parlé de l'hydrographie, mais je voulais aussi parler des reliefs. On a des sommets, plus hauts sommets d'Afrique, au-dessus desquels il y a des glaciers, comme dans les monts Rwenzori. Mais avec le réchauffement climatique, ces glaciers commencent à se perdre. Oui. Or, en aval de ces glaciers, il y a les grands lacs. Et ces grands lacs, il y a une section des lacs qui sont les sources réelles du Nil, qui a été prouvée aujourd'hui. Et c'est ce qui expliquait les fonds de ces glaces gonflent les lacs. Mmh. Et c'est ce qui explique les crues du Nil. Ce que disait Hérodote, sans le Nil, l'Égypte n'est qu'un désert. Vous voyez que ça impacte. Mmh. Et que quand c'est pollué, on pense au pétrole qu'on va exploiter dans les lacs Tanganyika, ça va polluer les pays en aval. Mais on va entrer dans les détails, sachant qu'on va faire encore une autre émission là-dessus, comment on peut faire le développement. En attendant, on va écouter une chanson de Soki Vango et l'orchestre Bella Bella, Zamba Zamba. Zamba Zamba, Zamba, ça veut dire la forêt. Ça tombe bien, on va écouter la forêt, donc Zamba par Soki Vango. Et la tradition est à l'intérieur de la chanson.
avez des artistes que vous souhaitez écouter, contactez José Nzolani, FPP 40.
1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris.
Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à l'adresse suivante.
Au son de la rumba, tout attaché, @hotmail.fr.
Ou encore nous téléphoner au 06 32 05 62 29.
Vous êtes toujours à l'écoute des fréquences Paris Pluriel 106.3 FM, émission Les Miroirs spéciale COP21, mais parole au peuple. Émission préparée et produite en collaboration avec l'Association de travail de Kinshasa, ATCK. Tout à l'heure, vous commencez à parler de déforestation. Mais quand on va dans les bassins du Congo, les gens doivent vivre. La plupart source d'énergie pour faire la cuisine, c'est le bois. Que ce soit dans la savane, que ce soit dans la forêt, les gens vont chercher du bois pour faire des braises ou pour faire le bois de chauffage. Et c'est ce qui favorise aussi une façon que le bois commence à se raréfier, la population augmente et tout ça. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça et de ses conséquences?
Ben moi, je pense qu'il existe des solutions naturelles. Par exemple, en Afrique, notamment au Congo, Kinshasa, dans la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est, sur le plan de la nature, vraiment un pays qui est un scandale. On disait géologique, pas seulement géologique, mais climatologique. Parce que c'est un pays qui égorge de beaucoup de potentialités, notamment de soleil. Si on pouvait exploiter l'ensoleillement au Congo, ben on pourrait
exploiter l'énergie solaire.
L'énergie solaire, justement, par des panneaux solaires et des fours solaires, des choses comme ça. Mais ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de recherche. Donc il faudrait vraiment inciter les Congolais à faire beaucoup d'efforts là-dessus, pour que les gens ne soient pas obligés d'aller déboiser, parce que le déboisement, ça dégage du dioxyde de carbone, tout et tout. Donc, ça renforce l'effet des serres.
Oui.
Voilà.
Tout à fait. Oui, Guillaume.
Oui. Je voulais ici souligner cet aspect aussi très important, c'est-à-dire que la déforestation, comme vient de dire notre camarade Massamba, c'est beaucoup plus justement un problème d'ordre énergétique. Il faut que les 65% de la population congolaise, que ce soit les paysans ou les citadins, qui sont à la recherche de cette énergie pour pouvoir faire bouillir la marmite ou pour pouvoir se chauffer à la maison, ils ont besoin absolument de cette énergie. Donc il n'y a que deux moyens. Il y a soit le fait de vouloir accélérer l'énergie hydroélectrique, qui demande de gros investissements, ou alors favoriser le plus rapidement possible l'exploitation de cette énergie solaire pour que les ménages ou les domestiques puissent pouvoir l'utiliser à moindre frais, de manière à ce qu'on puisse limiter ces problèmes du bois. Parce que le fait de pouvoir continuer à exploiter le bois va entraîner des conséquences énormes. Et dans cet ordre d'esprit, je voudrais saluer ici la mémoire de la personne que beaucoup de gens peut-être en Afrique ne connaissent pas. Nous avons eu en Afrique la seule et la première dame qui a remporté le prix Nobel de la paix, Matai Wangari, qui est kényane et qui malheureusement nous a quittés depuis quelques années déjà. Cette dame a été la première en Afrique à pouvoir à mettre l'idée en place de remplacer chaque arbre coupé par un autre à la place pour pouvoir faire le reboisement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on coupait un arbre, on devrait en planter un autre. Et Matai Wangari a été en Afrique la première femme qui a eu cette idée. Et c'est à ce titre, parce qu'elle a contribué à ces problèmes de préservation de la nature, à ce titre, elle a reçu le prix Nobel de la paix. Donc, c'est un problème qu'elle avait déjà, dès le départ, remarqué. C'est pour ça qu'on doit saluer sa mémoire, parce qu'elle est la seule femme africaine qui a eu le prix Nobel de la paix.
D'accord. Andy.
Oui, moi, c'est que je voudrais insister sur deux niveaux. D'abord...
C'est l'agronome qui parle, ou les nutritionnistes.
Oui, c'est au niveau, oui. Au niveau d'abord du bois de chauffage. Ça, c'est le premier niveau. Hein, le bois de chauffage utilisé par le ménage du Congo, le ménagère. Et au deuxième niveau, je parlerai aussi du bois exploité par les sociétés de multinationales. D'abord, au premier niveau, le bois de chauffage utilisé par nos mamans, souvent, c'est des arbustes. Hein, hein, ce n'est pas vraiment les essences forestières énormes, parce que pour les couper, il faut avoir vraiment des scies. Mais en fait, ce sont des arbustes. Alors, c'est souvent au niveau des savanes. On se rend compte, par exemple, parce que si on va vers le Bas-Congo, hein, à l'ouest du Congo-Kinshasa, on remarque que vraiment, il y a une sorte de perdition. Il y a pas mal des arbustes qui sont disparus. Effectivement, ces arbustes-là sont coupés pour que les gens puissent faire des braises. Bon, c'est vrai que notre ami Massamba a parlé de ce gaz, en fait. Comment ça se passe? En fait, en réalité, lorsque y a coupure des arbres, lorsque vous coupez des arbres, les problèmes se posent au niveau même de la plante elle-même. C'est-à-dire la plante ne pourra plus avoir la possibilité du gaz qu'on appelle le gaz carbonique pour pouvoir se développer. Vous savez qu'il y a un phénomène qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire les plantes, pour qu'elles se développent, les plantes ont besoin du gaz carbonique, de l'eau et de la lumière, donc le soleil qui nous apporte de la lumière. Et les trois éléments conjugués, la plante nous produit des composants organiques, notamment le manioc qui se trouve dans les feuilles de manioc, dans les tubercules de manioc. Donc, tout ça, s'il y a déforestation, s'il y a des coupures des arbres, s'il y a des coupures des arbres, qu'est-ce qui se passe? Ces phénomènes ne se réalisent pas. Du coup, nous pouvons avoir ce qu'on appelle une sorte de désertification, des vides. Ben, j'aimerais mieux quand même que nos compatriotes qui sont dans les affaires puissent essayer de résoudre ces problèmes. C'est pourquoi notre ami Guillaume Makidi parlait effectivement de nouvelles énergies. Comment on va faire? Bon, au Congo, pour aller un peu plus vite, hein, au Congo, nous avons une possibilité. Hein, parce que comme on avait dit, le bassin du Congo contient beaucoup d'eau. Or, on a beaucoup de barrages, hein, hydroélectriques, qu'on pouvait peut-être développer davantage, de manière à ce que qu'on puisse limiter au moins cette...
Et ça, on va parler ça dans l'autre émission.
Oui.
Mais on peut dire deux mots, oui. Parce que sinon, on va s'étendre.
OK, d'accord.
Parce qu'on a aussi un réacteur nucléaire, ne pas oublier, à Kinshasa.
Tout à fait. On en parlera dans la prochaine émission. Donc, pour dire tout simplement que le fait de couper les arbres, donc, pour nos mamans, c'est bien, c'est une nécessité peut-être pour la nourriture, pour la préparation des nourritures, mais par contre, ça pose quand même des problèmes au niveau de la flore qu'on pouvait avoir dans nos régions. Voilà ce que je voulais dire.
Et puis, il faut rajouter qu'une chose, quand on coupe les arbres, comme les forêts emmagasinent les dioxydes de carbone, en les coupant, ça libère les dioxydes de carbone.
Exactement.
Donc ça augmente
oui. C'est ça. Ce qui fait que l'augmentation de carbone fait un effet de serre.
Absolument.
Et donc la photosynthèse, donc le phénomène qu'on appelle ça la synthèse, photosynthèse, le phénomène chlorophyllien.
C'est ça. C'est-à-dire les plantes contiennent de la chlorophylle, oui. Et ce sont les chlorophylles qui fixent la lumière par des photons, hein, dans le chloroplaste, c'est-à-dire des organites qui sont dans les plantes, pour que...
pour nous restituer l'oxygène.
Pour nous restituer l'oxygène,
c'est ça, ouais.
Et pour produire de matière organique.
Et une autre conséquence, je voulais dire ça, parce qu'après on va parler d'autre chose, on va mettre une chanson pour nous permettre de respirer, et après on va attaquer des impacts de nos interventions à un autre débat. Mais moi, ce que je voulais dire, il y a aussi des conséquences visibles aujourd'hui quand on coupe les bois. Et quand il y a l'urbanisme sauvage, et les arbres qui tiennent les racines, qui tiennent le sol, ça provoque des érosions. Et ces érosions, on a des routes entières qui s'effondrent.
Des éboulements,
il y a des maisons qui s'effondrent, tout ça pendant la pluie, parce qu'avant, ça permettait aussi de capter. Oui.
Effectivement, comme vous le dites, les problèmes des érosions, c'est une des conséquences qui vient de l'occupation sauvage du terrain, c'est-à-dire l'exode rural en Afrique est tellement un phénomène extrêmement important, si bien que l'un des graves problèmes auxquels sera confronté, et déjà confronté d'ailleurs, la plupart des pays d'Afrique, c'est le fait que nous avons l'exode rural qui est fait de manière très, très sauvage. Et la surpopulation qu'il y a dans les villes qui est incontrôlée, parce que le gouvernement, la plupart du temps, ils sont dépassés par cette surpopulation qui vient de la paysannerie, qui viennent pour rechercher une meilleure vie auprès des villes. Mais comme ce peuplement n'est pas du tout assez contrôlé en termes d'équipement, que ce soit pour l'électrification ou que ce soit pour les raccordements d'eau, ça entraîne une occupation du terrain qui fait que les gens s'installent n'importe comment, ils coupent tout ce qu'il y a autour, et donc du coup, ça aggrave les problèmes dans la mesure où les érosions, les éboulements deviennent encore beaucoup plus graves.
Tout à fait. Sachant que la Terre, c'est quand même notre mère nourricière, comme dit Papillon Cosmique dans sa chanson, on n'a pas de terre de réchange. Mais avant de continuer notre émission, nous allons marquer une autre pause. On va écouter Baudouin Mavoula dans la chanson Mbila, Mbila qui veut dire palmier. Et les palmiers, dans la chanson, il dit on peut trouver tout dans les palmiers. Et après, on enchaîne notre discussion, notre débat, notre conversation autrement. Mbila, Baudouin Mavoula.
Ya pesa, ezali mbongora biso, bakoko batikeli biso, ezali mbongora biso, bakoko batikeli biso, olingi kolia mafuta, okoloka sena mbila, olingi komela masanga, okoloka sena mbila, olingi kozwa lokombo, okoloka sena mbila, olingi moto ya bondoki, okoloka sena mbila, olingi kozwa mayebo, okoloka sena mbila, olingi kozwa bambisi, okoloka sena mbila.
Voir dans le sigle de PSA, c'est notre héritage que nos aïeux nous ont légué. Si tu as besoin de l'huile, tu vas la chercher dans la noix de palme. Si tu as besoin du vin, tu vas le chercher dans le palmier. Si tu veux te fabriquer des balais, tu vas chercher dans le palmier. Tu veux fabriquer des flèches, tu vas chercher dans le palmier. Tu veux cueillir des champignons, tu vas chercher dans le palmier. Tu veux pêcher les poissons, tu auras besoin du palmier. Tu veux te fabriquer des savons, tu auras besoin du palmier. Tu veux te construire une cabane, tu auras besoin d'un palmier. Tu veux avoir une natte, tu auras besoin d'un palmier. Tu peux obtenir des objets divers grâce au palmier.
Mila bozali komona, nakati elembo ya pesa, ezali mbongo na biso, bakoko batikeli biso, ezali mbongo na biso, bakoko batikeli biso, olingi kozwa nde savon, okoloka se na mbila, olingi kosala ndako, okoloka se na mbila, olingi kosala litoko, okoloka se na mbila, misala ndenge na ndenge, misala kobima na mbila.
Babiloye,
Oye,
Bazeloye,
Oye,
Fiesa Oye,
Oya,
Keba la Macambo Ali.
Vous pouvez aussi écouter les émissions de José Nzolani sur le net, www.nzolani.net.
Bien, la conférence de COP 21 tenue à Paris a pour objectif, nous le rappelons, de pouvoir faire en sorte que nous puissions arriver à trouver un compromis, donc pour trouver les voies et moyens qui peuvent permettre à la Terre de pouvoir limiter le réchauffement climatique à plus ou moins 2 degrés, de manière à ce qu'on puisse encore limiter les conséquences qui résultent du réchauffement climatique. Bon, ayant la possibilité de dire aussi que le problème de l'effet de serre sur ces émissions et surtout le fait de l'industrialisation de pays qui, aujourd'hui, la Chine, les États-Unis et l'Europe, ont beaucoup contribué à ces réchauffements climatiques par les émissions de l'effet du gaz qui provoque l'effet de serre, le CO2. L'Afrique, dans ce contexte-là, n'est pas encore au niveau de pouvoir être considérée comme responsable au même titre que ces pays-là, étant donné que nous ne sommes pas encore dans le processus d'industrialisation avec l'exploitation des ressources énergétiques, notamment le pétrole, le charbon, le bois. L'Afrique n'a pas encore cette responsabilité-là. Donc, les problèmes qui se posent, c'est qu'on parle de pouvoir trouver un compromis avec des conséquences juridiques dans lesquelles seront enfermés l'ensemble des pays pour pouvoir sauver notre planète. Mais alors, conséquemment, la question centrale, c'est de savoir comment on peut arriver à aider les pays du Sud pour pouvoir limiter les dégâts qui peuvent résulter de ces phénomènes-là. C'est-à-dire que l'Afrique qui doit pouvoir aussi aller dans ces processus de développement ne doit pas suivre probablement la même voie. Alors, dans ce cas-là, comment pouvoir financer et aider ces pays du Sud pour qu'ils arrivent justement à limiter les dégâts de ce côté-là. Et dès lors qu'on parle de ces problèmes, il faut qu'on évoque les financements. Nous savons que la conférence de Paris a évalué à peu près à 100 milliards de dollars les aides destinées aux pays du Sud. Mais il faut que nous ayons aussi un cadre précis pour savoir comment exactement ces financements vont se faire, comment se feront les contrôles et comment mesurer les résultats par pays et comment ils seront effectivement utilisés, cet argent mis à la disposition des pays du Sud pour pouvoir vraiment contribuer à ce phénomène d'atténuation, en quelque sorte, hein, pour éviter d'augmenter donc les réchauffements climatiques. C'est des problèmes qui sont assez cruciaux. Nous savons que l'ONU n'a pas vraiment le moyen de pouvoir contrôler. Donc, il faut qu'on ait des précisions, par exemple, pour savoir comment seront financés les différents projets, notamment l'accélération de l'électrification de l'Afrique que prône M. Borloo, et notamment l'aide concernant les foyers qui peuvent vouloir utiliser la petite énergie due au soleil pour les domestiques et les restes. Voilà la grande question.
Et moi, je pense que je peux ajouter une petite question. Je pense que pour l'aide préconisée par la communauté internationale aux pays, notamment africains, même du tiers-monde en général, il se pose le problème de la corruption, qui est un phénomène gigantesque en Afrique, n'est-ce pas? Parce qu'on peut donner même 100 milliards de dollars aux dirigeants qui sont corrompus, ben je ne pense pas qu'ils vont l'investir dans la lutte contre le réchauffement climatique. Hein. Il y en a une bonne partie de l'aide sera détournée.
Oui.
Oui,
j'allais dire, ça aussi, c'est un problème très, très, très crucial, hein, parce que l'Afrique, vous savez, lorsque nous sommes rentrés dans l'an 2000, on avait dit qu'il faut qu'il y ait un développement liée au millénaire. Hein. Donc, c'était jusqu'en 2015.
Les objectifs du millénaire.
Les objectifs du millénaire. Merci, monsieur Guillaume. Donc, c'était justement pour voir comment l'Afrique pouvait se développer. Ben, nous sommes en l'an 2015. Nous constatons que la pauvreté continue. Et si jamais, comme il y a une proposition de pouvoir donner des 100 milliards par-ci, par-là, avec nos dirigeants, comme a dit M. Massamba, nous pensons que cela posera quand même un certain nombre de problèmes, surtout au niveau du contrôle. Ouais. Alors, déjà au niveau du contrôle, il y a une commission d'experts qu'on appelle les GEC, et ils nous disent que voilà, ils vont contrôler d'abord l'émission des gaz à effet de serre dans différents pays, ils vont mettre des satellites par-ci, par-là, pour pouvoir contrôler. Le temps qu'ils mettent les satellites, la pollution va continuer, l'effet de serre va augmenter. Hein. Donc, tout cela, c'est bien, mais nous avons quand même un certain nombre de doutes et d'inquiétudes au niveau des Africains.
Ouais. Oui, je pense que, comme vient de dire le camarade Andy, ces problèmes du suivi par rapport au financement et à l'utilisation qui sera faite de l'aide qui sera accordée aux différents pays du Sud est très, très importante. Peut-être qu'on pourra envisager des mécanismes de suivi au niveau international pour contrôler l'emploi et l'utilisation de cette aide au niveau local pour que ça puisse réellement servir à l'objectif visé. Parce que l'ONU doit pouvoir mettre ces mécanismes en place, et surtout qu'on venait de le dire, l'emploi de cet argent risque de pouvoir...
De toute façon, camarade Guillaume, je t'étonne un peu, parce que là, ils sont chiches. Parce que si tu regardes bien, si vous regardez bien au niveau, toujours des accords. Quand ils étaient à Copenhague, après Kyoto, ils sont allés à Copenhague, ils avaient promis déjà des sommes, mais on n'a pas vu ces sommes-là. Donc les pays riches ont conservé leur argent, ils ont continué à dégrader la planète. Et aujourd'hui, à Paris, ils veulent faire encore un autre discours et d'autres engagements contraignants, comme ils disent. Alors que lorsqu'ils étaient à Copenhague, ils avaient promis qu'ils allaient donner de l'argent.
Mais là, je pense que ce n'était pas contraignant.
Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, on voudrait mettre en place un cadre juridique contraignant.
Mais oui, mais tout le monde n'est pas toujours d'accord, hein, parce que les États-Unis ne veulent pas des contraintes. Par exemple,
c'est-à-dire que chaque pays, il y a des intérêts divergents. Absolument. Il y a des intérêts divergents dans le sens du développement. D'abord, parce qu'un pays comme la Chine, par exemple, qui a atteint un niveau de développement tel que ils trouvent qu'ils sont obligés d'employer les énergies qui leur sont, disons, disponibles, ils ne veulent pas être quelque part mis dans des contraintes telles qu'on puisse limiter leur développement, leur croissance économique.
Tout à fait.
Bon, alors pour nous, les Africains, c'est un peu la même chose aussi. Mais nous, c'est pour d'autres raisons, parce que chez nous, c'est beaucoup plus le fait que la corruption et puis l'argent destiné à l'Afrique n'est pas toujours parti au bon endroit et ça ne donne pas l'effet escompté. Donc c'est surtout ça qui nous concerne. Et puis ce qui nous concerne le plus, c'est aussi la préservation au moins de notre environnement immédiat.
Tout à fait.
À propos du bois, pour qu'on puisse au moins...
Nos
richesses naturelles. Et surtout, faire en sorte qu'on puisse accélérer l'électrification, c'est-à-dire l'énergie hydroélectrique, pour pouvoir fournir l'énergie en quantité suffisante pour éviter qu'on puisse continuer à utiliser les bois, par exemple. Donc, on peut trouver d'autres formes d'énergie, notamment le solaire, qui serait probablement plus pratique pour les ménagères, par exemple. Hein, parce que les gros investissements sur l'hydroélectrique, ça coûte énormément beaucoup d'argent.
Oui, malheureusement, on peut le faire. Excusez-moi. Il y a eu Inga 1, il y a eu Inga 2, on peut faire Inga 3 avec la collaboration des autres pays d'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud est parmi l'un des pays, disons, qui pollue davantage au niveau de l'Afrique.
Parce que
au moins 15%, parce qu'eux, ils utilisent encore le charbon. Or, comme le Congo, Kinshasa, a de l'énergie de hydraulique de Inga. Ils peuvent, avec le Congo, les Africains du Sud peuvent en faire en sorte qu'ils mettent les moyens financiers pour qu'ils puissent développer. Oui.
Mais je pense qu'ils sont déjà sur ce projet-là. Justement. Le projet-là est déjà en cours. C'est-à-dire qu'on a même déjà signé des contrats sur la part qu'ils vont pouvoir utiliser pour, parce qu'ils sont en déficit d'énergie.
Excusez-moi, mais là, malheureusement, donc la discussion devient intéressante. Il ne nous reste que 9 minutes d'émission. Donc, qu'on essaie un peu de dire, parce qu'après, il faut qu'on conclue. Parce que bon, c'est très intéressant, mais on aura l'occasion.
Moi, je vais faire un petit commentaire, juste un petit commentaire. Voilà, moi, je pense que nous ne devons pas tout attendre de... un petit commentaire. Nous ne devons pas toujours attendre tout de l'Occident, n'est-ce pas? Nous avons nos propres responsabilités.
Tout à fait.
Cette crise de la pollution mondiale doit nous permettre aussi de prendre conscience que nous devons développer nos centres de recherche scientifique et technique.
Tout à fait.
Et toutes les solutions ne doivent pas venir de l'Europe, bien de l'Occident.
Je suis d'accord.
Nous sommes responsables, quelquefois, en partie, de notre propre malheur.
C'est pourquoi je disais que l'aide qui a été promise avant, depuis Copenhague, on n'a jamais vu ça. Donc, on doit faire nos efforts.
Ouais.
On doit compter sur nos propres forces.
Tout à fait.
L'aide n'a jamais été une solution totale et majeure pour un pays. On ne peut pas compter sur.
Mais on peut faire une émission sur l'aide parce que là, il y a des questions à se poser. Qui aide qui quand on parle de l'aide?
Exactement.
Voilà, parce qu'on dit aide, après, on va dire des dettes après.
C'est ça.
Mais là, le problème, c'est que comme il nous reste moins de 10 minutes, alors est-ce que s'il y a un mot à dire par rapport à la protection de la nature et en même temps encourager le développement durable, j'explique pour ceux qui... c'est-à-dire que comment on peut se développer sans priver les générations futures des ressources. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, avant d'attendre, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention, en termes de comportement?
Oui, moi, j'allais dire, sur ces problèmes-là, le développement de l'Afrique doit venir d'abord au niveau de l'agriculture. L'agriculture, c'est...
C'est la base.
C'est la base. C'est-à-dire, nous, en Afrique, nous avons utilisé une agriculture qu'on appelait extensive. Pour les Occidentaux, les Européens, et comme ils utilisent l'agriculture intensive avec des hauts rendements, c'était pratiquement des critiques vis-à-vis de l'agriculture extensive. Or, l'agriculture extensive, mine de rien, ça conserve la nature. C'est vraiment ce qu'on appelle l'agriculture durable, le développement durable. Mais seulement, il faut qu'on fasse des efforts pour que le rendement par hectare puisse augmenter. Il suffit qu'on l'augmente, mais je pense que nous sommes dans la bonne voie. Nous devons conserver notre agriculture extensive, mais modernisée.
Oui, merci Andy. Guillaume, et après Massamba, parce qu'il nous reste très peu de temps, on va rendre l'antenne.
Oui, la question essentielle que tu viens de poser au sujet du développement, est vraiment, c'est une très grande question, parce que... nous avons aujourd'hui le constat que les voies suivies pour se développer assez rapidement par les pays qui sont partis en avance ont montré leurs limites et leurs catastrophes. Comment ? C'est-à-dire qu'on s'aperçoit de plus en plus que la croissance économique n'est pas illimitée et aussi... les effets provoqués par ces développements, maintenant, sont dans beaucoup d'aspects au niveau de la conservation de la nature et de l'environnement assez néfastes. Mais nous, les Africains, nous devons chercher toujours nos voies et moyens de meilleur possible pour pouvoir faire un développement plus ou moins durable et harmonieux qui préserve au mieux possible notre environnement et notre nature et nos ressources naturelles.
Massamba.
Bon, pour moi, je pense que je vais quand même poser un problème de probité de nos dirigeants, n'est-ce pas? Car nos dirigeants doivent être des gens au service du peuple, non pas au service de leurs propres intérêts. Parce que quand ils sont au service de leurs propres intérêts, en fait, peu importe qu'ils massacrent la nature, l'essentiel pour eux, qu'ils engrangent des bénéfices, n'est-ce pas? Au détriment du peuple. Donc, cette question est cruciale et centrale pour moi.
Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes chers amis.
Ben,
aujourd'hui, on avait le président de l'association ATCK, Andy Yakin Mavambou, Robert Makidi,
Makani.
Robert Makani, qui est parti en cours d'émission parce qu'il a des obligations.
Ouais.
On a Guillaume Makidi et Massamba, qui va finir notre émission avec sa chanson. Mais on peut rappeler rapidement, si on veut contacter, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être intéressés par l'Association des travailleurs congolais, s'ils veulent nous contacter, à qui faut-il s'adresser et comment faut s'adresser rapidement avant de finir?
Oui, pour contacter le responsable de l'Association des travailleurs du Congo-Kinshasa en France, vous pouvez nous appeler au 06 26 23 31 09. Je répète, 06 26 23 31 09. Et l'email, c'est atckfrance@yahoo.fr. Nous sommes en train de mettre un site en exécution. Ça va venir dans les jours qui viennent. Le site aura pour intitulé www.atck.org. Voilà.
Merci beaucoup. Mais pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'émission au début, ne vous inquiétez pas. Nous allons mettre cette émission dans notre site. Que je vais vous donner l'adresse tout de suite. Merci beaucoup. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que l'ATCK va venir. Mais en tout cas, l'époque de Fréquence Paris Pluriel 106.3 vous est ouverte. Merci beaucoup.
C'est nous qui vous remercions.
Merci. Et voici l'adresse du site.
Babiloye, Bazeloye, Fiesa Oye, Kebala Makambo Wana.
Vous pouvez aussi écouter les émissions de José Nzolani sur le net, www.nzolani.net.
Nous allons finir notre émission par une chanson de Massamba. Massamba, Papillon Cosmique, La Terre, Notre Mère. Tendez bien l'oreille, écoutez les textes.